Trieste est une ville italienne de 200 000 habitants, au bord de la mer, au carrefour de la frontière italienne, autrichienne et slovène. Elle est l'un des premiers ports d'accueil européens pour les migrants arrivant par la terre ou la mer. Mais elle est aussi tristement connue historiquement. En 1938, c'est à Trieste que Mussolini proclame l'ordonnance des lois racistes. Ces lois visant principalement les personnes de confession juive, en les privant de leurs droits, en inscrivant le racisme et l'antisémitisme dans la loi. L'histoire trouve malheureusement aujourd'hui un écho dans la ville de Trieste, 80 ans après la proclamation de ces lois, par le biais de faits divers de privation de droits. Plusieurs événements cristallisent les tensions entre extrémisme religieux, politique d'extrême droite et récupération politique de la mémoire collective. Le témoignage que vous allez entendre aujourd'hui a été fait lors de rencontres internationales de chorales, à l'initiative de militants et choristes italiens contre les lois racistes italiennes. Pour manifester contre la montée du fascisme en Italie aujourd'hui, pour ne pas oublier et lutter contre les démarches menées par l'extrême droite. Je m'adresse ce jour à un militant antifasciste de cette ville, Gianluca. Bonjour Gianluca.
Bonjour, bonjour.
Alors on est aujourd'hui à Trieste, oui. Dans la vieille ville. Qu'est-ce que cette ville, donc en Italie, a de particulier au niveau historique et puis peut-être l'implantation géographique
Oui, je pense que Trieste a une histoire très intéressante parce qu'elle était depuis toujours un nœud, un carrefour des civilisations et des pensées. Même les mots Trieste, Tergest en latin, peut-être que ça vient d'un ancien mot slave, Turg, qui ça veut dire place, un peu comme les forums dans les villes latines et romaines. Donc, Turg Trieste, les forums, c'est là où se rencontraient les gens. Voilà. Trieste n'a jamais eu une histoire facile. Sans aller au début de l'histoire, il faut considérer que Trieste a été avec les Autrichiens, c'est-à-dire dans l'Empire austro-hongrois, jusqu'en 1918. À ce moment-là, la population était très mixte. Il y avait une majorité, mais pas écrasante, d'Italiens, je dirais presque d'Italophones, pour ne pas utiliser les mots ethniques, parce que c'est une autre chose en plus. C'est-à-dire qu'il y avait des Slovènes qui parlaient italien, et donc qui sont des Italophones.
Tandis qu'ils ne sont pas. Le langage, mais pas forcément la culture.
Bien sûr, mais en étant Slovènes de Trieste, des gens Slovènes qui étaient nés à Trieste. Bien sûr, il y avait une forte communauté slovène, et une forte communauté autrichienne et allemande. Mais en 18, c'est l'Italie qui, entre guillemets, a gagné la guerre et a essayé d'italianiser avec beaucoup de force et avec le fascisme, beaucoup de violence, cette région qui n'était jamais que italienne, était aussi italienne, bien sûr, mais elle était slave, elle était autrichienne, elle était allemande. Il y avait des communautés, et il y a encore aujourd'hui des communautés des Grecs, il y avait beaucoup de musulmans provenant de l'Empire ottoman, par exemple. Et donc, une mixité qui n'allait pas aux nouveaux propriétaires de cette terre. C'était des Italiens très extrémistes, nationalistes, qui disaient « Trieste, c'est l'Italie ». Donc, les Autrichiens sont partis tout de suite, en 1918. Les Slovènes sont restés, mais avec un statut presque d'infériorité. Et c'est là que le fascisme a fait, à Trieste, ses premiers essais. Déjà en 1919, il y a eu un fascio des combattants à Trieste. Et se sont déchaînés contre la minorité slovène. Donc, ce qui était une richesse énorme avant 18, sans parler de l'Empire austro-hongrois comme l'âge d'or. Oui. Non, ce n'est pas comme ça, bien sûr. C'était un empire oppressif, comme tous les empires. Mais il y avait une certaine laïcité qui permettait aux gens de parler dans sa langue, dans les rues, par exemple. Oui. Ce n'est pas la liberté, mais c'est une liberté. Là, c'était plus possible. Le fascisme a essayé d'effacer tout ce qui n'était pas de pura razza italiana, d'une race italienne inexistante et qu'il est soi-disant pure.
Toute trace, voilà. En fait, de cette mixité de ces cultures.
Oui, c'était. Ils ont essayé d'effacer l'histoire de Trieste, d'effacer Trieste. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont appelé des gens qui venaient du royaume d'Italie. même du sud de l'Italie, mm-hmm. qui venaient ici, ne comprenaient pas la complexité de la région et sont devenus des extrémistes nationalistes.
C'est une forme de colonisation du nord de l'Italie, en fait, pour garder la frontière ou un truc comme ça ?
Oui, c'était un vieux rêve des nationalistes italiens d'avoir Trieste. Mais ils ne comprenaient pas que Trieste n'était pas une ville italienne. Et même aujourd'hui...
C'était économique.
C'était économique, bien sûr, mais très culturel. Quand les nationalistes ont amené l'Italie à la guerre mondiale, le peuple italien n'était pas d'accord. Mais eux voulaient ça pour conquérir le nord-est de ce qui est maintenant l'Italie, c'est-à-dire le Veneto, la région de Venise, mmh. et le Frioul, Venezia Giulia, la région de Trieste, pour aller même plus loin.
Oui, parce que c'est une enclave vers le pays des Balkans.
Vers les Balkans. Et donc il y a eu une politique de Balkans de Mussolini assez violente, qui, pendant la Deuxième Guerre mondiale, s'est transformée en guerre d'agression contre la Yougoslavie, qui a été occupée, contre la Grèce, contre l'Albanie. Il y a une occupation très violente, chose qui, quand l'Italie, quand le fascisme est tombé et le mouvement communiste de Tito est devenu, a gagné la guerre, ils ont été quand même les premiers à chasser les nazis d'une ville européenne. Tuzla, c'est la première ville libérée par la population le 10 octobre 1943. Donc c'est un mouvement vrai des populations, pas de certaines élites. Et donc, ils sont arrivés en Italie, en Istrie, entre la Yougoslavie et l'Italie, en 1945. Et pour certains nationalistes, c'était l'occupation des barbares slaves. Ils les appelaient les slaves communistes, les slaves communistes. Donc, une race maudite, parce que slave, parce que communiste. Et là, il y a eu des jacqueries, bien sûr, en Istrie, contre les Italiens. Mais c'était une revanche forte et des fois très violente et même sanglante de certaines populations qui étaient oppressées. Je ne dis pas que c'est bon, au contraire, non du tout. Mais il y a un nationalisme qui crée un autre nationalisme qui contre les premiers nationalismes. Nationalisme A contre nationalisme B. Et là, c'est les droits des peuples qui a été écrasé.
C'était en quelle année, ça ?
C'est juste après la guerre. Donc, le 1er mai 1945, les partisans de Tito sont entrés en Trieste. Et il y a eu 40 jours qui, pour certains, c'était la libération de la ville.
Mm-hmm. Quand même Tito,
pour d'autres, l'occupation de la ville.
Bien sûr.
Avec des violences, mais les contextes étaient très durs. Ce qui s'est passé il y a 2-3 ans à Trieste, c'était très fort. Une violence,
contexte,
une violence énorme. Oui.
Aujourd'hui, Trieste, qu'est-ce qui se passe et comment on vit de ce passé, des changements de culture, entre guillemets, et qu'est-ce qu'est la ville aujourd'hui à ce niveau-là ?
Je dirais qu'on peut utiliser des mots très, très anciens et peut-être même pas trop exacts, mais je pourrais parler d'une passé qui ne passe pas. Et donc aujourd'hui, en 2018, pour certaines forces politiques et pour une certaine opinion publique, on est comme en 45, 46, 47. C'est-à-dire, il y a des barbares slaves qui sont malheureusement dans la ville de Trieste et qui sont là d'une façon malhonnête. Ce sont des voleurs, ce sont des gens qui font... Non, et voilà. Et c'est-à-dire, faire des raisonnements aujourd'hui, comme si on était en 48, ce n'est plus possible. Il faut libérer les mentalités des gens de tout ce qui se passe. En plus, Trieste est en train d'être investi d'une façon très forte par la Chine, parce que la Chine est en train de reconstruire l'ancienne voie de la soie de Pékin jusqu'à Trieste, qui peut devenir jouer un rôle important. Stratégique. Si ça s'avère, va se réaliser, les vieux nationalismes sont effacés d'un coup, grâce, entre guillemets, pour moi c'est une chose très, très complexe et à étudier, parce que c'est ça, pas facile, par un nouveau turbo-capitalisme ou communisme-capitalisme qui vient de Pékin. Et la ville sera complètement transformée d'une façon radicale. Donc, que deviendront-ils les vieilles appartenances politiques, les vieilles haines entre communautés? Aujourd'hui, la situation est moins violente qu'il y a 70 ans, 90 ans, c'est sûr. Il n'y a plus des choses qui se passent dans les rues, les fascismes, quand même, non, est encore en difficulté dans l'Italie démocratique. Mais il y a des pulsions très fortes que la situation globale et européenne peut pousser très loin. C'est à Trieste que le fascisme italien en 1919 est né, après Milan, bien sûr, et c'est ici qu'il va faire des preuves, les néofascismes. On a ici des mouvements d'extrême droite qui vont s'implanter. Il y a déjà Forza Nuova, Force Nouvelle. Il y a Casa Pound, c'est un mouvement d'extrême droite qui se réclame au poète Ezra Pound. Un grand poète, non? Mais il était pro-fasciste, pro-Mussolini. Voilà, il a fait aussi la prison après 45.
Ce dont tu parles, c'est des groupuscules ou ce sont des partis politiques?
Ce sont des groupuscules qui ont... un écoute très large, à mon avis, trop large, au moins pas très, mais trop large. Ce sont des groupuscules, Forza Nuova il est déjà ici, et sont un peu les anciens nationalistes catholiques, les fascistes. Tandis qu'il y a Casa Pound qui vient s'implanter là le 3 novembre, et je pense qu'il y aura une grande manif antifasciste le 3 novembre. On va voir, on a encore du temps pour comprendre ce qu'on va faire, pour essayer d'empêcher... qui est dans une ville qui a une forte communauté juive, qui a des Slovènes, des gens qui viennent de tout le monde, un deuxième mouvement de centre droite va s'implanter. Ils ont un conseiller communal, Forza Nuova, et quand même, ils sont très forts au niveau du discours commun. Il y a beaucoup, on dit en italien, dédouaner, sdoganare, certaines idées il y a 20 ans, on n'avait pas le courage de dire à haute voix. Et là, un discours...
Maintenant, c'est assumé. C'est assumé.
Assumé. C'est assumé. Et ils sont au gouvernement quand même, parce que la Lega Nord de Bossi, qui était indépendantiste de la Padanie, maintenant est devenu un parti souverainiste. Souverainiste. Et donc, il a des rapports avec le Front National en France, des rapports avec Orban en Hongrie, avec certains partis au gouvernement en Pologne. Donc, une internationale noire qui n'est plus, sinon pour certains groupuscules, l'ancienne droite, vieille ou nouvelle droite, mais droite, mais un mouvement souverainiste qui a percé dans les couches populaires. Ils font un discours anti-immigré, bête, on le sait que c'est bête, non, mais c'est comme ça.
Et ils ont été élus, ces gens-là?
Mais bien sûr, on a les ministres de l'Intérieur, c'est Salvini, qui est le premier ministre en pectoré, non, parce que c'est lui qui fait tout. Il intervient, on a un premier ministre qui est presque un fantôme.
Et votre mairie ici à Trieste?
Et la mairie, c'est une mairie de droite qui est soutenue par l'extrême droite. Et même dans certains qui sont soi-disant des modérés des droites, il y a des pulsions de plus en plus fascisantes. Les discours fascistes ont gagné aussi les centres-gauches.
Oui.
Et certains anciens hommes et femmes de la gauche, même communistes.
Qui sont dans la confusion.
Qui sont dans la confusion totale. Mmh. C'est sûr, la gauche, tout mouvement compris et mouvance comprise, a fait des erreurs énormes. Mais quand même, là, on va vivre une phase compliquée parce qu'on voit que dans les rues, c'est notre discours maintenant d'être très minoritaire. Mmh. Nous, on a fait ici, on vient de deux jours où on était dans les rues avec nos drapeaux, nos chansons anarchistes, communistes, socialistes, libertaires, etc. Mais dans la ville, on est très minoritaire. Hier, on a eu l'impression, parce qu'il y a eu beaucoup de monde, et je suis très content, et je remercie les camarades de Nancy, mais de France et d'ailleurs, qui sont venus nous soutenir ici. Mais dans le quotidien, vraiment, on entend dans les bus, on entend dans les magasins
des discours
qui sont très dérangeants. Mm. Et le problème, c'est qu'il n'y a plus une force importante
en face.
Mm. Et on est très éparpillés. Et en plus, les soi-disant partis plus importants de la gauche italienne, les partis démocratiques, dans son intérieur, il y a aussi des pulsions à répondre positivement à l'appel de l'extrême droite contre les migrants. Tandis que l'ancien ministre de l'Intérieur, qui était du Parti démocratique, a fait des choses qui ont été applaudies par Salvini, qui est l'actuel ministre de l'Intérieur. Donc même dans le centre-gauche, et je te dirais même dans l'extrême-gauche communiste, les discours anti-migrants a percé. Et a gagné pas mal de positions. On parle en Italie de mouvement rouge-brun.
Oui,
et en France aussi. Voilà. Et donc, on a peur de ça. On a peur de ça parce que, à Trieste et ailleurs.
On commence à parler librement de ça.
Oui.
En fait, on a du mal à avoir le discours inverse.
Oui.
D'assumer le discours inverse.
Bien sûr.
Alors qu'on devrait le faire.
On devrait le faire.
Et...
justement une culture alternative pour combattre ces choses-là à Trieste, donc tu en as un petit peu parlé, mais...
Oui,
on peut... Alors, comme
je disais, on est très, très divisé, mais pas de façon méchante dans l'extrême gauche et bien sûr avec la gauche modérée.
Mm-hmm.
Mais entre nous, il y a ici des mouvements très, très forts et très ancrés dans les territoires, on peut dire ancrés.
Oui, tout à fait.
Des fois, je fais des italianismes. Voilà. Un très fort mouvement anarchiste et très jeune. C'était très ancienne parce qu'il y avait toujours des anarchistes ici. Et on a des très bons camarades qui font un bon travail et qui font un remarquable travail. Après, il y a des étudiants des facs de Trieste qui font un très bon travail, surtout avec les migrants. Il y a des mouvements, des petits partis communistes qui ont encore un rôle important.
Mais
Pardon ?
Et des lieux aussi ?
Il y a aussi des lieux. On a la spécificité de Trieste, c'est qu'un petit parti communiste qui s'appelle Parti de la Refondation communiste a gardé ici et pas ailleurs, sinon dans certaines d'autres villes, deux ou trois maisons du peuple, Case del Popolo, qui sont en train de s'ouvrir à tous les mouvements, à tous ceux qui vont venir pour participer. Donc on est en train de construire des choses qu'on avait il y a 20 ans. Mais il y a eu une vingtaine, c'est pas comme les vingtaines fascistes, bien sûr, mais 20 ans dans lesquels les discours hégémoniques étaient celui de la droite libérale et de la droite extrême. Nous, on n'a pas su faire face à tout ça. Et donc, on est là, regardez dans les yeux. On est des mouvements qui... on fait des choses en commun, bien sûr, maintenant, sur des objectifs très, très précis. Par exemple, ce gouvernement voudrait réouvrir, pas loin de Trieste, à Gradisca, une maison de rétention pour immigrés. Il faut l'appeler comme pour... Il appelle CPR, Centre Provisoire de Rétention, mais c'est une prison pour des gens qui n'ont commis aucun crime. Non, du tout. Et donc là, on va essayer de faire monter un peu l'opposition à ces projets. Le président de la région, lui aussi c'est de la Ligue, a dit qu'il faudrait ouvrir une vingtaine de centres dans le Frioul. En Frioul, il y avait beaucoup de casernes, parce que c'était la dernière région de l'Occident libre contre le communisme. Et donc maintenant, il n'y a plus ça. Et donc, il voudrait réouvrir ces anciennes casernes pour qu'elles deviennent les nouveaux centres de rétention pour les immigrés, qui viennent surtout par la route balkanique, Afghan, Pakistan, etc., du Pakistan, etc. Et nous, on a essayé d'empêcher tout ça. Et on est en train de construire une opposition qui, peut-être, elle est très forte. On fait une manif le 29 août qui était très, très bien suivie. On avait presque 1000 personnes dans la place principale de Trieste, la Piazza Unità, là où on a chanté hier. Il y a ces étudiantes des facs de droit et des lettres surtout,
mais
qui mobilisent. Chaque mardi, ils font une assemblée publique dans une place de la ville. Ils sont arrivés à la dixième. Et on travaille bien ensemble, mais pas encore vraiment ensemble. On se respecte beaucoup et on se parle, c'est déjà pas mal. Et là, il faudrait, à mon avis, passer à une phase successive plus forte, plus puissante. Parce que les problèmes des migrants, et là, ce n'est pas un problème. C'est un problème pour les autres, pas pour nous. Mais là, il y a 3000 migrants qui sont bloqués à la frontière.
Aux portes de Trieste, alors.
Oui, entre Bosnie-Herzégovine et Croatie. De temps en temps, ils arrivent à passer deux, trois, une famille ici, une famille là. Mais il y a une situation très, très mauvaise à Bihać et à Belga Kladuša. Ce sont deux villages à 10 km de la frontière croate. Et la Croatie fait la police pour l'Europe, pour l'Union européenne. Et ils sont en plus très méchants. Vraiment, il faut le dire, non ? Tandis que la population bosniaque est très accueillante par rapport aux... Il y a une solidarité, il faut le dire, bien sûr. Et donc, de temps en temps, ils arrivent ici. Ici, il y a aussi des institutions qui font un bon travail, je dirais, humanitaire. Voilà. Mais nous, on voudrait faire le travail politique qui va avec le travail humanitaire. Ce ne sont pas des choses différentes.
Qui ne sont pas sur l'instant, mais qui sont dans la durée.
Bien sûr, bien sûr. C'est vrai, des camarades qui sont venus ici, qui habitent à Trieste maintenant, ont commencé à dire qu'il faut agir et mettre nos corps dans les luttes. C'est-à-dire aller dans les lieux, même ici, dans la ville de Trieste. La droite a menacé de faire des sentinelles privées dans les... C'est vraiment, on a fait un discours qu'on n'avait pas entendu depuis des décennies. Et ils ont essayé de faire quelque chose. Et nous, on ne doit pas faire les anti-sentinelles. Mais quand même, il y a des immigrés qui sont là, dans les ports, et qui n'arrivent pas à être accueillis, même pas pour les organisations humanitaires. parce que des fois, il y a un problème énorme des papiers, mais vraiment énorme. Même pas, ils peuvent déposer
leur candidature.
Candidature, mmh. Voilà. Et donc, qui reste vraiment isolé dans une terre de nessuno, no man's land. Et donc, mettre nos corps, ça signifie aller la nuit donner des renseignements. Parce qu'on s'est aperçu que pas tout le monde arrive à avoir ça, pas tout le monde parle anglais.
Oui.
Voilà. Et donc, c'est un travail, entre guillemets, humanitaire, mais très politique. Et on va essayer de travailler avec les organisations bosniaques, certains croates qui sont bien, quand même il y a
pas mal de liens. D'être solidaire entre organisations,
bien sûr, bien sûr.
Pays, parce que vous êtes près
et aussi
frontière.
les Slovènes avec qui on travaille. Mais là aussi, il y a encore beaucoup de boulot à faire entre nous. Mais pas pour méchanceté, c'est une phase politique très... Très difficile. Oui, très difficile et très complexe. Oui.
Eh bien, on reviendra dans ce oui. cas pour tous vos mouvements, tout, oui. tout, et on accordera toute l'aide
dont
vous avez
bien
besoin.
Sûr, bien
on reviendra
sûr.
En force sans oui. problème. Je vous souhaite beaucoup de courage.
Merci.
Et merci beaucoup, Annika, de nous avoir merci à
toi et à tout le monde, tous les Français sont venus ici. Vraiment, on a passé 3 jours magnifiques, je pense.
Merci beaucoup.
Merci à toi.
Et à très bientôt.
À très bientôt.